18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Oh là là, quel plaisir. Bonsoir, chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Ah oui, ça mérite une clochette. Vous m'avez manqué, tellement manqué que je me suis dit, à nous les auditeurs, à nous les auditeurs. Allez, c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission. Chers amis auditeurs, pendant 1h30 jusqu'à 19h30, eh bien voici ce que je vous propose. C'est parti. Nicolas Vidal, qui sera avec nous, qui est le patron, vous savez, le patron fondateur de Putsch Media, il est aussi éditorialiste. Il sera avec nous dans une poignée de minutes pour commenter justement la réforme des retraites. Ah oui, 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 parce qu'on a beaucoup de nouvelles justement à vous faire part. Alors ensuite, après, vous savez, les auditeurs ont la parole, comme d'hab, à 18h20. Vous venez participer au standard au 01 53 48 3000. Tout simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réforme? Est-ce que franchement vous souhaitez que les mouvements de grève se mobilisent, continuent de se mobiliser et continuent de prendre de l'ampleur? Est-ce que c'est une question très simple, hein, je voudrais qu'on en parle partout en France, vous, et répondre à cette question notamment. Et puis ensuite, on parlera avec nos débatteurs influenceurs. Ils sont nombreux ce soir sur le plateau. Jean-Pierre Colombier, Samine Saha. Ensuite après, vous savez, ils seront face à face, hein, tout simplement. Ensuite après, nous aurons Gamal Abina. Et ensuite après, un quatrième qui viendra. C'est la surprise du chef. Voilà, la surprise du chef qui viendra nous livrer justement son point de vue. Ici, confronté sur les quatre sujets qui ont retenu notre attention, on reviendra sur cette forte mobilisation, sur les propos de Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avec cette confidence sur sa mère, femme de ménage, qui a suscité évidemment beaucoup de réactions. Philippe Martinez qui dit qu'il faut taxer les super profits, on en parlera aussi également. Et puis on parlera aussi de la rue. La rue peut-elle s'emparer, eh bien, tout simplement du pouvoir, et un peu comme on l'a connu sous une autre forme avec les Gilets jaunes. Voilà le programme que je vous propose. C'est parti, c'est tout de suite, et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti tout de suite pour l'interview du jour.
Les Informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Nicolas Vidal, que je ne présente même plus. Bonsoir Nicolas Vidal.
Bonsoir Adil Farkan, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie infiniment, merci d'être avec nous mon cher Nicolas Vidal. Je le rappelle à tous celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes éditorialiste média, mais également aussi, surtout, le patron fondateur de Putsch Media. Parlons-en justement. Oui. Comment vous avez vécu cette grande mobilisation, on peut le dire, hein, la réforme des retraites? Vous la qualifiez comment? De grande réussite ou... D'un carton plein concernant, évidemment, quand on entend les différents principaux syndicats qui parlent, eux, de 2,8 millions, bien sûr, de mobilisation, d'accord, de manifestants, et 1,2 pour selon la police. Vous dites quoi?
C'est une grande réussite, mais c'est la réussite surtout de la misère, c'est la réussite de la précarité, cette grande manifestation, cette mobilisation. Il ne vous aura pas échappé qu'il y avait énormément aussi de monde dans la province d'où je suis né et où je vis en partie du temps. Vous avez aussi des villes, Adil, où il n'y avait jamais eu de manifestation. À l'île d'Ouessant notamment, où il n'y avait pas de manifestants. Et là, des premières manifestations se sont mises en route. Donc effectivement, c'est une grande mobilisation. Mais il faut quand même dire aussi, Adil, ça je crois que c'est le point important qu'on ne relève pas assez souvent. Aujourd'hui, les syndicats, soyons très clairs, n'ont pas la capacité de mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait énormément de citoyens lambda qui se sont agrégés aux manifestations parce que la situation de la France économique notamment...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Nicolas Vidal? Qu'est-ce qui vous fait dire que les syndicats n'ont pas la capacité à drainer autant de manifestants?
Simplement des chiffres tout à fait factuels du nombre d'adhérents aux syndicats depuis plusieurs années qui s'érodent énormément. Et d'une part, ça c'est le premier point. Et le second point, l'observation, mon cher Adil. Aller en manifestation, voir, sentir l'atmosphère, aller battre le pavé et la rue pour voir un peu qui se cache ou qui va en manifestation, et on se rend compte que vous avez énormément de gens, des citoyens français qui ne savaient pas comment protester, qui ne savaient pas finalement comment se faire entendre, et qui, grâce aux syndicats, il faut le dire, qui ont donné une mobilisation, qui ont donné une date, un lieu, une horaire, sont allés s'agréger pour contester, manifester et crier, même pas, j'ai envie de dire, leur colère, mais surtout leur désarroi face à une situation économique, mais absolument tragique. Il faut employer les mots tragiques.
Je vous écoute parler, Nicolas Vidal. Ce n'est pas que, évidemment, la réforme des retraites qui mobilise. C'est aussi ce que vous venez de nous rappeler, cette misère, ce désarroi, cette précarité. C'est quoi au juste? C'est notre quotidien?
Ben, bien sûr, je pense que tous les auditrices et auditeurs de Beurre FM en font l'expérience tous les jours, quand ils vont ne serait-ce qu'au supermarché. L'inflation alimentaire sur des produits qui peut atteindre 30, 35, voire 40%. La facture de l'électricité qui va monter, qui augmente à partir d'aujourd'hui, 1er février, avec un bouclier tarifaire qui la jugulera à 15%. Mais le bouclier tarifaire, il faut jamais oublier que c'est nous qui le payons. Vous avez aussi les prix des carburants, Adil. Imaginez, aujourd'hui, je suis dans région parisienne, non, le prix des carburants atteint des sommets. Vous imaginez que toute cette convergence aujourd'hui de difficultés du prix de la vie, qu'on ne voit pas s'arrêter. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'avenir, nous n'avons pas d'horizon. Ça continue de monter. Donc, effectivement, les gens aujourd'hui sont en train, non plus que la rue pour contester, et vous voyez bien qu'Emmanuel Macron ne peut pas reculer. Là-dessus, on peut en parler, si vous voulez. Il ne peut pas reculer sur cette réforme. Il est dans l'impossibilité de reculer. Et bien, aujourd'hui, il n'y a que la rue. Et quand vous voyez, bien entendu, les 49.3 divers et variés qui font souffrir, bien entendu, l'Assemblée nationale et les dissensions entre les différents partis des différentes oppositions, aujourd'hui, que reste-t-il aux Français pour manifester? Moi, je pose la question, que reste-t-il aux Français pour manifester contre ce sujet?
Ah, justement, parlons-en, mon cher Nicolas Vidal. L'exécutif, est-ce que vous pensez qu'il l'entend, justement, ce désarroi dont vous parlez? Est-ce que le chef de l'État, Emmanuel Macron, il l'entend également? Est-ce que ça peut bouger, ça? Est-ce que ça peut faire bouger les lignes?
Moi, je pense pas que ça peut faire bouger les lignes, pour être très clair avec vous et très franc, pour la bonne et simple raison que cette réforme des retraites est voulue par Emmanuel Macron, mais elle est voulue énormément aussi par l'Union européenne. L'Union européenne impose aux pays membres une réforme des retraites. Ça a été le cas déjà il y a quelques jours en Belgique, où ils sont passés à 67 ans. Donc Emmanuel Macron, il est obligé, avec sa feuille de route, notamment renforcée par le plan de relance. Souvenez-vous, le plan de relance européen, c'est en plein Covid, mais il y avait une contrepartie à ça, ce qu'on appelle des réformes structurelles. C'est-à-dire l'Union européenne a dit, ok, on te donne de l'argent, mais par contre, derrière, il faut absolument faire la réforme des retraites. Et ça a été le cas. La réforme des retraites, elle n'est pas arrivée comme ça sur le tapis depuis 2 mois. Hein. La réforme des retraites, elle est imposée par l'Union européenne depuis 2015-2016. Il faut lire les traités, il faut lire les recommandations. Donc, Emmanuel Macron, il ne peut pas reculer là-dessus parce qu'il s'est engagé à la faire passer. C'est pour ça qu'il y a une certaine brutalité démocratique à la faire passer, parce qu'il n'a pas le choix. Et aussi, idéologiquement, il est assez pour la réforme des retraites. Et on se retrouve dans une situation qui est une véritable impasse politique. Moi, je déplore, hein, vraiment. Vous avez 70%, je crois, des Français aujourd'hui qui sont opposés à cette réforme, opposés frontalement à cette réforme des retraites. C'est très strict là-dessus. Et près de 9 salariés sur 10 qui sont opposés. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la situation politique est très, très compliquée avec un président qui ne peut pas reculer. Parce que si Emmanuel Macron recule, il perd toute crédibilité et légitimité dans son mandat, voyez-vous. Et ça, et face à une contestation forte de la rue, aujourd'hui, je pense que moi, je suis assez intéressé quand je vois la question du référendum ressortir, notamment ces dernières heures. Parce que là, je pense que c'est la seule façon de pouvoir régler ce problème-là. Et ça pose aussi la question de savoir quel a été le programme au début, quelle a été la campagne Emmanuel Macron à ce sujet-là, et quelle est la volonté des Français, puisque alors, je répète que dans ce pays, le peuple est souverain.
Alors d'un côté, Nicolas Vidal, vous dites qu'effectivement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a tout intérêt à faire passer cette réforme. D'ailleurs, il risque de la faire passer au sein de l'hémicycle sous la forme de vote, hein, puisqu'il a la majorité relative, et je pense qu'elle risque de passer avec cette majorité relative. En revanche, vous savez, les principaux syndicats ont d'ores et déjà annoncé un appel à mobilisation les 7 et les 11 de février. Prochain. Oui. Alors finalement, est-ce que ça peut encore faire bouger les choses? Et sur quoi l'exécutif peut encore négocier? C'est quoi cette marge de négociation qui reste d'ici, évidemment, parce qu'on le sait que le vote aura lieu en février, puis ensuite au mois de mars?
Il n'y a aucune marge de négociation. Elisabeth Borne l'a dit dimanche matin, ce n'est plus négociable, c'est très clair de la part du gouvernement. En sous-main, Emmanuel Macron est excédé aujourd'hui par ce retard qui est pris. Bien entendu, il sent aussi que la rue accroche énormément pour passer cette réforme. Vous l'avez dit, Adil, bien entendu, le jeu parlementaire pourrait nous amener un 49-3, voire un 47-1. Alors ça, c'est un texte un peu compliqué, un peu technique. Mais je veux dire, par là, le gouvernement ne dérogera rien, ne dérogera pas sur cette réforme des retraites. C'est là que, véritablement, c'est intéressant. Et maintenant, vous avez raison, il y a de nouveaux appels à mobilisation le 7 février, le 11 février. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir si les sections locales, notamment la CGT, vont dépasser la centrale syndicale tenue par Philippe Martinez et peut-être Laurent Berger, mais notamment sur la CGT, et on va voir s'ils vont peut-être sortir et faire eux-mêmes prendre la décision de faire des blocages eux-mêmes. Et la question en supplément, c'est savoir si des citoyens excédés pourraient peut-être rejoindre le blocage. ce qui nous donnerait une situation très inédite en termes de lutte populaire. C'est plus la lutte sociale, parce que la lutte populaire, et on va voir si la mayonnaise va prendre.
Alors,
nous, au vu des dernières mobilisations, on pourrait le penser.
Jusqu'ici, les deux grandes manifestations se sont plutôt bien passées, dans un bon esprit, on est d'accord. Plutôt même très bien passées, avec évidemment très peu de heures, et puis quelques interventions, on parle de 30, 40 interventions. Est-ce que ça sous-entend ce que vous êtes en train de nous dire? Vous l'avez laissé entendre, en tout cas de façon sous-jacente, Nicolas Vidal, que le pays peut être bloqué le 7 ou le 11 février, qu'il peut y avoir une paralysie?
Ben, on sent très clairement, pour moi qui m'intéresse de près, vous le savez, mon cher Adil, à ces questions sociales, de lutte sociale, de grève, de blocage, on voit très bien que dans différentes sections locales, il y a des gens qui pensent que le mouvement est trop mou, c'est-à-dire que faire des appels à la manifestation et des grèves sur une journée, beaucoup aujourd'hui de syndicalistes de la base estiment que c'est trop mou. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les raffineries, l'énergie, ou peut-être dans d'autres secteurs de l'administration, ou des secteurs de l'État qui sont stratégiques, pourraient eux-mêmes, à un moment donné, dans les prochains jours, peut-être, décider des actions beaucoup plus dures, de blocage, de grève, notamment. Et c'est là-dedans que c'est intéressant pour nous, journalistes et historiens politiques, qui nous intéressons à ces sujets sociaux de première importance, voir, à un moment donné, s'il va y avoir un débordement. Je vous rappelle, cher Adil, qu'il y a 10 jours de ça, Emmanuel Macron, ou 2 semaines, il y avait une confidence dans Le Parisien, où Emmanuel Macron avait dit au Conseil des ministres, c'est la chien libre, pour ne pas dire autre chose, parce que personne ne contrôle plus ses troupes. Vous comprenez que c'est des réflexions qui sont intéressantes, parce que ça voudrait dire que le corps social, les corps intermédiaires ont tellement été dénigrés et dépassés que même les bases, ça avait été le cas en 2019, rappelez-vous, pendant la réforme des retraites, en novembre 2019, certaines sections locales avaient dépassé les mots d'ordre nationaux et avaient bloqué de leur côté. Et rappelez-vous aussi la grève des contrôleurs de la SNCF, c'était un mouvement qui était hors syndicat pratiquement. Donc c'est dans cette situation que nous nous trouvons aujourd'hui, et oui, peut-être que dans ce cas-là, le fait que le gouvernement ne veut pas bouger sur la négociation, ça pourrait donner très clairement des blocages de part. Et d'ailleurs, la note des renseignements qui a de 2 semaines, craignaient déjà les renseignements, craignaient effectivement des actions éparses, presque individuelles, au sein de certaines sections de blocage de pays.
Avant de vous laisser, évidemment, puisqu'on arrive au terme de cette interview, mon cher Nicolas Vidal, dans Putsch Média, votre média en ligne, justement, dans l'interview Société et Entretien que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec Yvan Riffiol, justement, il y a une déclaration, nous sommes en phase d'effondrement, mais à cette heure, le nouveau monde n'a pas été pensé. Ça, c'est évidemment le titre d'accroche concernant l'interview Société d'Yvan Riffiol que vous avez réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, le nouveau monde n'a pas été pensé? En gros...
Ça veut dire que finalement, dans toutes les révolutions, jacquerie populaire, il faut à un moment donné, si vous voulez changer le système, changer de pouvoir, changer d'élite, il vous faut à un moment donné des gens qui sont capables de reprendre le flambeau, de restructurer le pays, de lui donner un nouveau cap, une nouvelle vision. Et est-ce que c'est le cas? Yvan Riffiol fait son analyse, et elle est tout à fait intéressante là-dessus, mais c'est vrai que c'est l'histoire même des mouvements populaires, c'est l'histoire même des révolutions, où il vous faut à un moment donné des gens qui sont capables de prendre en main la nation, le pays, et surtout lui donner un avenir, et surtout lui donner une vision démocratique et un changement profond, de manière à ce que ce pays redevienne serein, apaisé, et puisse vivre, que ses citoyens puissent vivre paisiblement. Voilà un peu rapidement la définition, ou du moins l'explication de cette grande interview à la une de Putsch Média.
Eh bien, allez-y, j'invite tous nos auditeurs partout en France qui nous écoutent justement d'aller se procurer cette interview société exclusive. C'est Putsch Média. Allez-y, c'est le média en ligne avec son père fondateur, le patron Nicolas Vidal. Merci infiniment d'avoir été avec nous et nous avoir apporté cet éclairage concernant la mobilisation, Nicolas Vidal. Et au plaisir de vous retrouver.
À très bientôt, merci à vous.
J'ai Jean-Pierre Colombier, est-ce que vous connaissez peut-être l'ancien commandant de la police, qui lui va débattre, qui est sur le plateau, qui vous salue chaleureusement.
Merci, je lui passe aussi mes amitiés à Jean-Pierre Colombier. Voilà.
À très vite, Nico.
Au revoir, très vite.
Nicolas Vidal, qui était avec nous. À tout de suite, je marque une pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. Vous savez quoi? Je voudrais vous entendre justement venir nous livrer votre sentiment à la fois sur l'interview qu'on vient d'avoir avec Nicolas Vidal. Est-ce que vous la partagez? Mais également, comment vous voyez les choses? C'est vrai, à terme, est-ce que tout cela s'annonce sous la forme d'un blocage de notre pays, d'une paralysie complète? Est-ce que c'est ce qu'on veut? À tout de suite, 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti, vous savez quoi? Les auditeurs ont la parole, on ouvre l'antenne, c'est à vous.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
C'est le moment que je kiffe. Non mais c'est vrai Anthony, non ? Bonjour Anthony, j'ai même pas dit bonjour Anthony.
Oh là, tu m'oublies.
Ah c'est pour ça tout à l'heure tu faisais la gueule.
Ah bon, je te faisais la gueule à ce point-là ?
Et qui tournait la tête et tout, etc. Est-ce que je n'ai pas dit bonjour ? Ça va ?
Ça va super.
Tout va vite, c'est normal, on retrouve l'antenne.
Ah, ça fait plaisir.
Bon, on ouvre l'antenne, t'es prêt ?
Exactement, comme Lucky Luke.
Ouais, comme Lucky Luke. Moi c'est mon moment, vraiment, c'est un grand moment que je préfère de parler avec nos auditeurs.
C'est vrai, c'est un kiff.
Ouais. Allez, c'est parti, 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, je vous attends tout de suite avec le sujet qui nous concerne, la mobilisation, la grève, évidemment, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, mais surtout, moi, la question qui m'intéresse, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qu'il faut bloquer le pays, paralyser le pays complètement pour que, voilà, que les syndicats soient entendus et que l'exécutif bouge un peu plus, voilà, et bouge, quand je dis bouge un peu plus, c'est-à-dire ouvre un peu plus la négociation. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on bloque le pays, qu'on paralyse le pays, justement ? Je voudrais vous entendre partout en France venir nous en parler. Tiens, en attendant les appels, puisqu'on va les prendre un à un, au 01 53 48 3000, il y a Jean-Pierre qui, depuis tout à l'heure, il réclame le micro. Donc, on va lui ouvrir le micro. Ça va ?
Bonsoir, Adil, bonsoir.
Faut lui ouvrir le micro.
Les auditeurs, les auditrices, bien évidemment, tout seigneur, tout honneur.
Que je ne présente même plus, ancien commandant de la police, le porte-parole des policiers indépendants, mais également aujourd'hui, il est comédien.
Yes.
Vous êtes en pleine répète.
C'est du travail, ouais.
Beaucoup de
travail.
Vous avez l'air épuisé, non ?
Non, pas épuisé, mais il faut se concentrer, ouais, c'est du boulot. Bah, tous ceux qui nous écoutent, qui font du théâtre, savent de quoi je parle.
Ouais.
C'est beaucoup de travail, parce que derrière la représentation, il y a effectivement du temps passé devant son texte, souvent en solitude, et c'est assez ingrat.
Voilà. J'ai remarqué, moi, de Jean-Pierre Colombier, s'il arrive toujours tôt. Il arrive tôt, ah, avant oui, tout ouais. le monde, le premier.
Tu déteste être en retard.
Et c'est vrai,
c'est
toujours.
Il
lui faut son petit talent. La menthe.
Ah oui, il n'y a pas de whisky.
Il dit à défaut d'un whisky, alors pas de pub. Non. L'alcool, attention.
Oui, non, mais pas bon, pub, à tout seigneur, tout honneur.
On n'a pas le droit.
L'exactitude et la politesse des rois, très cher Adil. Ouais. Et puis surtout, c'est par respect, tout simplement, à l'institution qui m'accueille. Donc je ne me verrai pas arriver en retard et voilà.
Bravo. Respect. Bravo, respect. Respect, mon cher Jean-Pierre Colombier. 0153 48 3000, je vous attends, chers amis auditeurs, pour répondre à cette fameuse question. Intéressant ce que disait Nicolas Vidal tout à l'heure,
très
le patron de Punch Media. Notamment, est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment aujourd'hui, Jean-Pierre Colombès, que on passe par ce blocage ? Est-ce que forcément la France doit passer par là ?
Ben, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le choix, Adil. Moi, j'ai participé.
Ah oui, vous êtes radical. Vous.
Oui, je suis radical. Oui, j'ai participé aux deux journées de rassemblement. J'étais sur le terrain hier encore. J'ai participé aux manifestations. Et on n'a pas le choix. Pourquoi ? On n'a pas le choix tout simplement parce qu'on a un pouvoir politique qui est sourd à tout, qui est bloqué, qui a verrouillé les écoutilles de la négociation, et qu'en face il y a une opposition politique qui n'est pas audible non plus. On a une fragmentation des oppositions. On a la NUPES, bon, qui veut plus rien dire du tout avec ses éclatements internes, ses disputes de boutiquiers. Le Parti Socialiste qui s'explose, la NUPES, le LFI, on ne sait pas trop exactement où il se situe. Il n'y a que le Rassemblement National qui apparaît comme un bloc à peu près uniforme, et les LR sont à vendre pour une poignée de cacahuètes. Donc on ne sait pas trop où ces gens-là vont, ce qui fait que Macron et son équipe d'ailleurs, qui est assez disparate elle aussi, hein, qui nous vient de tous bords, mais n'a cessé de mentir. Macron n'a cessé de mentir, lui et ses copains. Je veux dire, on a quand même un Olivier Dussopt. Faut quand même historiquement, politiquement, faire un peu d'histoire politique, était au Parti Socialiste et défendait la retraite à 60 ans. Et on a ce monsieur qui aujourd'hui, le plus sereinement du monde, avec un cynisme absolu, défend le principe de la retraite à 64 ans. Enfin, on a un président de la République qui, il y a 3 ans, nous expliquait, à nous pauvres crétins que nous sommes, qu'il fallait impérativement ne pas augmenter l'âge de la retraite parce qu'on n'avait pas réglé le problème de l'emploi des seniors ni de la situation des femmes dans l'emploi.
Oui.
Et tout ça fait qu'aujourd'hui, ce monsieur nous impose son diktat dont ça apparaît plus comme un caprice que comme une vraie vision. En tout cas, une ambition narcissique.
01 53 48 3000, je vais aller du côté de Saint-Etienne. Vous connaissez Saint-Etienne ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Eh bien, allons-y, on va accueillir Farid.
Il connaît le club de foot. Allô ? À l'époque.
Il a dit qu'il connaît le club. Farid, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même, ça va ? Jean-Pierre Colombiès me dit qu'il ne connaît pas du tout Saint-Etienne, mais il connaît le club de foot.
Ah ben oui, à l'époque,
c'est déjà un bon début.
L'épopée des Verts, des Verts.
Moi, j'ai quand même joué 8 ans professionnels au club, quand même.
Ah ben voilà.
Bravo, Farid. Un ancien pro, alors, non ?
Oui, j'ai joué 8 à Saint-Etienne. Après, Bourges, Aubervilliers, Paris FC, Nice, Martigues.
Oh, et j'ai encore en mémoire, peut-être pas vous, mais encore la mémoire de cette finale perdue à cause des poteaux carrés. Et ça m'est resté en travers.
Oui, ça c'est vieux, ça.
Merci.
Ça veut dire, en gros, de la manière dont il a balancé pareil, c'est au bon moment qui était un yeuve. Donc,
dégage.
Farid, c'est très classe, hein.
Ah bon?
Non, bon, c'est pas grave. On vous écoute, Farid, sur la mobilisation et sur le blocage du pays.
Non, mais moi, je suis content. Il faut bloquer, il faut tout casser. J'aime pas parler comme ça, mais bon, je suis père de famille, je suis grand-père.
Voilà.
Il faut tout casser.
Non, faut pas tout casser. Ne soyons pas dans le registre de dire faut tout casser.
Il faut tout façon de parler, mais c'est plus possible. Attends, là, on augmente l'électricité de 20%, 15%. On s'en sort
15%
plus.
Pour l'électricité, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Heureusement que j'ai gagné 2 ou 3 sous dans le foot, sinon, mais comment ils font les gens pour vivre?
C'est clair.
C'est vrai.
C'est clair. Est-ce que je disais, excusez-moi de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est important, le prix d'électricité.
Encore vous avez joué au foot, donc vous avez mis de côté, il a raison.
Oui, mais tout le monde n'a pas eu.
Mais tout le monde n'est pas comme vous, Farid.
Bien sûr, j'ai eu cette chance, grâce à Dieu. Mais les gens, comment ils font pour vivre? C'est pas possible.
Eh ben, ils tirent la langue, ils tirent la ceinture.
On peut plus faire les courses, on peut plus rien faire, je sais pas comment ça va finir.
Et on vous explique que c'est de votre faute, en plus. Parce qu'on a quand même certains ministres qui vous expliquent que si on paye très cher l'électricité, c'est parce que certains ont fait le choix de choisir des abonnements qui étaient supposés leur garantir une alimentation. Je cite madame Agnès Pannier-Runacher, dont on ne fait plus, qu'on ne présente plus. Mais il y a aussi un truc quand même hallucinant, c'est qu'on a, monsieur le maire nous explique que il est très content, monsieur le maire. Il nous explique avec son petit col roulé, parce que maintenant c'est la nouvelle mode, il porte col roulé, que ils ont réussi à négocier auprès des revendeurs, des négociateurs, enfin des distributeurs d'électricité, un prix maximum à 280 euros pour un kilowattheure qui est vendu à la base initialement à 42 euros. Donc si ça, c'est pas prendre les consommateurs pour des crétins, des imbéciles, il faut m'expliquer ce que c'est. Farid, sachant que, petite précision, la différence, le fameux bouclier tarifaire, c'est vous et nous qui allons le payer. C'est l'État. Donc il n'y a pas de cadeau de l'État, ça sort pas de la poche de monsieur Bruno Le Maire, ça sort de nos poches.
Farid, ça craint alors? Ça craint?
Ouais, moi, je sais pas, franchement, j'ai de la peine pour certaines personnes, franchement, les retraités. Regardez-moi, j'ai 57 ans.
Oui.
J'ai 57 ans, bientôt j'aurai 59. Il me reste, si tout va bien, que j'ai arrêté le foot, il me reste 3 ans à travailler. Mais carrière longue. Mais je pense aux gens qui.
Aujourd'hui, vous faites quoi aujourd'hui, Farid? Vous êtes coach?
Non, même pas. J'ai eu mon diplôme. J'ai le droit d'entraîner à Istres. J'entraînais un peu la réserve de la Ligue 2. Après, je suis rentré sur Saint-Etienne. Et là, je fais plus rien. Là, je suis un vieux con. Voilà.
Ouais.
Je fais plus rien.
Non, dis pas ça.
J'attends.
On n'est jamais vieux.
J'attends ma retraite, c'est ça?
Non, mais c'est vrai, j'attends la retraite. Ouais. Voilà, tranquillement.
Faut jamais s'arrêter.
Ouais. 23 ans, et puis voilà.
Bah écoutez, bon courage à vous, Farid, hein, de Saint-Etienne.
Merci de m'avoir accueilli à l'antenne, on se rappellera. Merci.
Bah écoutez, avec plaisir, revenez quand vous voulez. 0153-48-3000, continuez à nous appeler, mais tout de suite pour l'heure, il est 18h30, c'est parti, le Quoi de Neuf.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous savez, c'est le fameux poudine du mercredi. Hein. Un poudine où, notamment, vous savez, notre cher docteur et le professeur Majid Seroussine, eh bien, tous les mercredis, il nous fait un cocktail explosif de l'actualité. Bonjour, mon cher docteur Majid Seroussine.
Bonjour, mon cher Adil.
Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous entendre.
Plaisir partagé, vous nous avez beaucoup manqué.
Absolument, mais partagé, moi aussi. Réforme des retraites, la grève, les insectes et les insectes. Enfin bref, comme d'hab. On vous écoute pour ce fameux, évidemment, cette compilation de l'actu.
Bah écoutez, mon cher Adil, l'actualité est bien monotone d'une semaine sur l'autre. On dirait qu'il ne se passe plus rien dans ce pays et qu'on ne peut parler que d'inflation et ou de la guerre en Ukraine et ou de la réforme des retraites. Plus rien d'autre, on semble se passer et ce pays me semble de plus en plus étrange. 1 200 000 personnes qui sortent dans la rue pour le droit à être vieux à 62 ans plutôt qu'à 64. Étrange, non? Vous me direz, si Emmanuel Macron avait été un peu plus malin, il n'aurait pas parlé d'âge de départ à la retraite, mais de nombre de trimestres. Comme à l'école publique, on n'apprend plus à compter, tout le monde y aurait vu que du feu et ce serait passé facilement. D'autant que pour la plupart des Français, l'âge moyen de départ est autour de 63 ans et quelques mois. Tout ça pour ça, me direz-vous? Et pourtant, il y a tant à dire sur bien d'autres sujets. Tenez, savez-vous, mon cher Adil, qu'il paraît que la communauté européenne vient d'autoriser l'incorporation de farine d'insectes dans des préparations boulangères?
Aïe, aïe, aïe.
Bien sûr, on devra nous avertir, hein. Mais qui lit les compositions à part les rabbins obsédés du cachère et les musulmans sourcilleux sur le halal? Tenez Adil, oui. Ce matin, vous n'avez pas trouvé que votre croissant était meilleur que d'habitude ?
Un peu plus.
Eh bien, c'est parce qu'il était rehaussé avec de la farine de cancrela.
Ah là là, j'adore.
L'autre jour, je croquais une tranche de brioche et je me disais qu'un jour, à la place du cheveu blond de la boulangère, j'y trouverais peut-être une pâte de criquet de pèlerin. Un délice, je ne vous dis que ça. Peut-être d'ailleurs que finalement, les habitants des quartiers où pullulent les logements insalubres et en même temps où pullulent les punaises, c'est devenu un problème de santé publique, vous le savez, Adil, vont pouvoir se trouver un nouveau débouché professionnel. L'élevage d'insectes pour l'industrie agroalimentaire. Peut-être que cela paiera un peu plus que chauffeur chez Uber. Non, décidément, mon ami, nous vivons une époque formidable. Il ne manque plus qu'à trouver un débouché pour les rats et Anne Hidalgo sera soulagée d'un grand problème parisien. La dite Anne devrait méditer. Car après la mise en garde de l'Académie de médecine sur les 24 morts par trottinette, ne voilà-t-il pas que l'Observatoire de la sécurité routière s'alarme de la surmortalité des cyclistes. 3260 morts sur les routes de France, dont près de 8% de cyclistes, avec 244 tués et une progression de 30% en un an. Mmh. Et on s'étonne que la population parisienne diminue.
Aïe.
Ça devient vraiment trop dangereux. Je crois que je vais rester chez moi et croquer des biscuits au cancrela.
Vous avez réussi à faire rire Jean-Pierre Colombiès, c'est vrai ?
Je salue notre intervenant, ouais. Toujours beaucoup d'humour. Donc
c'est vrai, vous suivez avec beaucoup d'assurance.
On a beaucoup de besoin d'humour. Mais vous savez, l'humour est une arme redoutable, très redoutable.
Mais il est redoutable, notre docteur.
Ah, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. L'humour, l'humour, c'est quelque chose de terrible parce qu'on ne maîtrise pas. Et le rire est terrible. Vous savez, les grandes religions ont souvent combattu avant tout le rire.
Ah, vous imaginez un ancien commandant de la police qui vous dit ça, mon cher docteur ?
Ah bah écoutez, j'espère qu'il pourra me faire sauter quelques PV.
En tout cas, je n'en ai jamais mis, docteur.
Ah, jamais. Il a dit, il n'en a jamais mis. Vous vous rendez compte ?
C'est un saint.
Non, j'étais simplement inspecteur de police, ce qui fait la différence.
Voilà, tout simplement.
Ouais. Merci, docteur.
À votre service, bonsoir.
Et prenez soin de vous surtout.
Vous aussi, au revoir.
On lance la pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h40, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est parti pour Les Informés, nous sommes ensemble et une heure de débat, c'est parti, c'est ce qu'on appelle le face-à-face.
Les Informés, le face-à-face.
Avec Jean-Pierre Colombiès, comment ça va ?
Très bien.
Tirez le micro vers vous, pourquoi vous...
Il est là, c'est par pudeur.
Qu'il vienne à vous, n'allez pas à lui.
Je suis pudique.
Gamal Abina, bonjour, comment ça va ? Très bien.
Je voudrais pas dire, mais j'étais accueilli par un type étrange qui m'a dit Salam alaikum et qui avait une tête de Jean-Pierre Colombiès.
Écoutez, il est à vos côtés, c'est bien. Écoutez, il est comédien en même temps.
Ah, c'est ce que je vois.
Méfiez-vous des comédiens. Nabil Etakash, le représentant du 9-3 concernant Renaissance, comment ça va ?
Très bien, bonsoir à tous.
Et toujours le sourire, vous ?
Toujours.
Ah, c'est bien, je vois ça. Hein. Amine Saha, qui est un élu à la Courneuve, qui est pris dans les bouchons, paraît-il. Il sera là dans une prochaine minute.
Surprenant,
absolument.
Des bouchons à Paris, non, c'est pas possible.
Mais messieurs, vous savez quoi ? Tout de suite, nous allons démarrer avec cette mobilisation des retraites. Alors justement, deux nouvelles journées qui sont d'ores et déjà inscrites, ça y est, le 7 et le 11 février prochain. Mais moi, la question que je vous pose, elle a battu un record historique, oui ou non ? Que peut-on dire de cette forte mobilisation qui a à la fois réunis, vous savez, d'un côté 2,8 pour les principaux syndicats, mais de l'autre, selon la police, 1,2. Que peut-on, en résumé, avoir comme grille de lecture sur ce qui s'est déroulé hier ?
La question est posée à qui
Jean-Pierre Colombiès.
Ça parle de soi.
On fait un tour de table.
Ça part de soi, c'est la deuxième journée. Il y a une mobilisation au moins égale à celle de la semaine dernière. Et par contre, ce qui est intéressant...
Record battu, me semble-t-il.
Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'évaluation chiffrée globale qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est qu'elle est nationale. C'est-à-dire que ces manifestations ont été vues, se sont révélées partout en France. Et là, si ça n'éveille pas l'interrogation du gouvernement, je me demande ce qui va l'interpeller. Parce que ça veut dire véritablement, et si on va jusqu'au bout du process, après ça c'est le problème du gouvernement, mais si le process va jusqu'au bout, alors même qu'il y a 70% de la population qui s'oppose à cette réforme, que l'ensemble de la France, dans ses plus petites composantes, exprime son mécontentement, il y aura un véritable divorce démocratique, et alors là, point de suspension.
Gamal Abina.
Moi, j'ai envie de dire que...
Il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
Oui, même s'il y a eu mobilisation égale, on ne sait pas, parce que le chiffre, c'est le bagarre. En gros, une grosse
égale,
mobilisation...
beaucoup plus importante que celle du 19 janvier dernier.
Oui, je note qu'on commence à manifester, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'écho et qu'il ne se passe pas grand-chose. Je crois que cette réforme passera, qu'il veuille ou non, malheureusement, et je crois qu'il ne sera pas entendu. Parce que c'est vrai, quand on est 70% de la population, on n'est pas d'accord, c'est une chose. Sauf que sur le terrain, quand on a moins de 2 millions de personnes, c'est pas très fort, en réalité. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à mobiliser réellement de façon très large. S'il y avait 5, 6 millions de personnes en manifestation, là, ce serait un impact qui, effectivement, sera entendu. Mais aujourd'hui, ils font à peu près par égal. La dernière fois, c'est les prochaines manifestations qui donneront le là. Là, on saura vraiment s'il va y avoir des changements. Et pour le coup, je ne crois pas trop.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'effectivement, là, mais attendez, j'y crois pas trop. Il ne s'agit pas de dire elle passe ou elle ne passe pas. C'est aujourd'hui la question que je vous pose. C'est cette mobilisation qui a réuni beaucoup plus évidemment de manifestants. Quand on fait la comparaison avec le 19 janvier dernier, est-ce que le gouvernement observe cela avec beaucoup d'attention? Est-ce que ça le fait plier? Est-ce que c'est la rue qui est en train de gagner? C'est ces questions aujourd'hui qui s'en posent. C'est ça qu'on se pose comme question. Évidemment, j'attends pas de vous que vous me disiez si la réforme de retraite. On le sait que la réforme de retraite va passer. Quoi qu'il arrive, on le sait, elle a cette majorité relative. Ils vont l'avoir. Mais bon. Aujourd'hui, est-ce que la rue peut gagner?
Alors voilà, je vais pas faire langue de bois. Je vais jouer le civilisé, maintenant on va passer à la phase sauvage. Vous avez déjà vu, vous, un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, démocrate ou pas, plié devant une manifestation bon enfant, structurée, gentille, où il n'y a pas de violence? Les moments où les gouvernements ont reculé, en 68, ça a été des bagarres pendant des semaines, 3 semaines. Ensuite, en 95, pareil, blocage total. Ensuite, Malik Oussekine, 86, rappelons-lui quand même, paix à son âme, qui a été tué par un voltigeur. Ça a tout bloqué, de vaquer et tomber. On ne peut pas obtenir de la part, dans un état démocratique, des résultats si les manifestations sont bonnes enfants. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je n'appelle pas la violence. Mais je veux dire, c'est soit où le nombre est important et impressionnant avec un blocage total, soit il y a des violences et à ce moment-là, il y a une écoute. Mais tant qu'il n'y a pas les deux, c'est zéro pointé, je vous le dis.
Nabil Aitaka, justement.
Oui, alors, il y a eu une mobilisation qui a été plus importante, un tout petit peu plus importante, et je pense pas qu'elle soit historique. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que... Enfin, déjà, avant toute chose, moi, j'ai quand même du respect pour les gens qui manifestent. On est quand même dans un pays, dans un état de droit, où le droit de grève est quand même une possibilité pour exprimer son avis contre une réforme. Donc ça, moi, je l'entends, et je vois qu'il y a des inquiétudes, je vois qu'il y a des doutes. Et qu'il faut encore enrichir, travailler. Là, le texte est à l'Assemblée.
Est-ce qu'ils sont prêts de l'enrichir, de le travailler?
Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels on peut avancer.
Toute la pression qui tourne autour de...
Sur l'emploi des seniors, on peut encore avancer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme, il faut la faire. Parce que notre objectif, nous, c'est vraiment... à travers cette réforme, on demande aux Français, on en a conscience, c'est un effort, on demande aux Français de travailler un petit peu plus de manière très progressive. Donc ça, on en a bien conscience, c'est un effort. Mais en même temps, c'est
sauf
même
que
une
c'est
réforme
réforme
qui ouais. Encore une fois, je le dis toutes les semaines ici, qui apporte de profondes modifications et qui ramène un peu de justice sur beaucoup de sujets. Et on remet la disponibilité, encore une fois, je vous dis, la pénibilité, les carrières longues, prend.
Non, mais ça,
Jean-Pierre Colombier.
On a bien compris ces éléments de langage, puisque ils sont. Non, mais si, ils sont répétés en
c'est bout, pas des éléments de langage, c'est juste ce que la loi fait, en fait. Moi, je dis ce que la loi propose. Non, mais alors ne réduisez pas mon propos à éléments de langage.
Si je peux moi argumenter, ce sera bien, parce que moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce que vous faites actuellement, je mets Renaissance dans le même package, la même sphère que le gouvernemental, puisque je crois que c'est quand même un peu lié, on est bien d'accord. C'est que justement, vous expliquez qu'on va s'attaquer à étudier des problématiques comme celle-ci, alors qu'il aurait fallu le régler avant. C'est ça qui n'est pas entendable chez vous. Vous dites, ah ben oui, on va s'attacher à régler le problème de l'emploi des seniors, l'emploi des femmes, machin bidule. Ok, d'accord, mais alors que ne l'avez-vous fait avant? Ça fait quand même presque 10 ans maintenant qu'Emmanuel Macron, d'une manière ou d'une autre, il a été secrétaire général de l'Élysée et ministre du budget, s'il vous plaît. Il est dans les circuits du pouvoir depuis quasiment 10 ans. On est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord?
Bon, non, mais je suis d'accord, mais je pourrais vous répondre là-dessus. Il y a eu une réforme, ce qui s'appelle la réforme Touraine, qui a commencé sous le précédent quinquennat, et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de cette réforme.
Il est dans le pouvoir, dans les arcanes du pouvoir, depuis 8 ans. Allez, je vous fais un prix à 8 ans. Mais là où ça va.
Réduction du chômage.
On
est dans la continuité de la réforme Touraine. Le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, et le taux de chômage le plus bas pour les jeunes depuis 40 ans. Donc ne dites pas, on a traité en amont un certain nombre de choses. Choisir son avenir professionnel, on l'a fait sur le précédent quinquennat.
Nous, on
souhaite réhabiliter la valeur travail.
Que vous avez deux adversaires dogmatiques dans le cadre de cette réforme.
Oui.
Des adversaires de poids.
Oui.
Emmanuel Macron lui-même, qui il y a 3 ans a expliqué par A plus B bah, qu'il fallait surtout pas la faire, cette réforme, parce que c'était un non-sens. Et vous avez Olivier Dussopt, eh oui, excusez-moi du peu, qui a pas si longtemps que ça, était dans le camp des socialistes, et combattait pied à pied.
Moi, je parle d'aujourd'hui.
Monsieur... Ah, bah oui, non, c'est
moi, je vous parle d'aujourd'hui. De monsieur Parlons Fillon, d'aujourd'hui. Bah, là, c'est... Non, mais parce que ça fait pas avancer. Je suis désolé, ah, bah, moi, ça fait pas avancer le débat. Non, mais ce que vous dites ne fait pas avancer le débat. Non, mais vous le dites. D'accord.
Mais beaucoup le pensent.
Alors, encore une fois, qu'est-ce que vous...
Beaucoup pensent aujourd'hui. C'est quasiment, vous savez, on parle de 70% de Français qui pensent, qui soutiennent la mobilisation et qui soutiennent les syndicats.
Mais bien sûr, mais encore une fois, je vous dis, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais bien évidemment,
c'est. Y compris les retraités.
Mais alors, on n'est quand même pas dans une démocratie sondagère. Et on n'est pas non plus. C'est pas les sondages. Pardon ?
Sondagère, ok.
Sondagère. Oui, c'est pas les sondages qui vont. C'est pas les sondages qui vont faire si on va faire une réforme ou pas. Donc il y a eu encore une fois des élections. Ça a été tranché.
Tronquée, élection tronquée.
Non, mais on va pas avoir le même débat toutes les semaines. Je pense qu'il faut plutôt continuer à répondre à ces inquiétudes.
Si on y les fait.
Attendez, Anna, Gamal Abina.
Sondagère, j'aime pas entendre ça. Parce qu'un système démocratique.
Dites-nous pourquoi. Dans le micro.
Un vrai système démocratique, il doit tenir compte de ce que pensent les gens, soit les convaincre, soit se plier. Parce que c'est pas parce qu'on
ce
est...
que pensent non, les gens, c'est les élections qui tranchent
non,
en général.
C'est
pas des sondages.
Ça, ça s'appelle une confiscation de la démocratie. C'est pas parce qu'on délègue le pouvoir à quelqu'un qu'il a le droit de faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait réinstaurer, de fait, un référendum pour voir si oui ou non les Français en veulent. Voilà. Si on veut parler de démocratie, je rappelle que c'est De Gaulle qui l'a installé. Donc soit on va jusqu'au bout de la logique. Si De Gaulle dit vous voulez, vous voulez pas, ben on fait un référendum. C'est ça, ce serait logique. Donc maintenant, pour ce qui concerne la réforme, juste répondre rapidement. Je pense que cette réforme est peut-être nécessaire, peut-être. Parce que pour l'instant, c'est pas
peut-être. Non, peut-être. Il n'y a aucun des scénarios du corps, parce que tout le monde nous parle du corps à chaque fois. Aucun des scénarios. Il y a 150 milliards de déficit qu'on va avoir sur 10 ans, là.
Peut-être
c'est quoi l'alternative?
Je la connais, l'alternative. Et je l'ai déjà donné, créer de l'emploi. C'est pas compliqué. Créer de l'emploi.
Mais créer de l'emploi, on est complètement d'accord.
Le pays, créer de l'emploi. C'est pas compliqué.
Mais oui, c'est pas d'une baguette magique.
Si, volonté politique, ça peut se faire. Les Chinois l'ont fait en 5 ans.
Et peut-être imposer les grands profits.
Voilà.
Non, je sais pas.
Non, les profits.
On en parlera tout à l'heure. C'est la proposition de Martinez.
Juste pour finir mon propos. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette réforme est peut-être, je dis bien, nécessaire si on crée de l'emploi, elle est plus nécessaire. C'est pour ça que je dis peut-être. Ensuite, elle n'est pas urgente. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même, aujourd'hui, si les gens sortent dans la rue, ce n'est pas pour la réforme de retraite. Ce n'est pas vrai. Ils expriment une colère qui va au-delà de ça.
Qui va au-delà des réformes de retraite. Je suis d'accord avec vous.
Et moi, je pense que si le gouvernement voulait faire passer cette réforme, il aurait fallu trouver structurellement les moyens d'empêcher l'augmentation délirante des prix spéculatifs. On parle bien de spéculation, on ne parle pas de marché libre. Donc, si on pouvait bloquer les prix et faire en sorte que les gens puissent vivre normalement, à minima, qu'il n'y ait pas une paupérisation de la population, cette réforme aurait peut-être pu passer facilement. Parce que là, on est en train de mettre en avant.
Est-ce que vous dites qu'est-ce qu'il a fait?
Je finis juste mon propos. On propose une réforme quasiment obligatoire et presque obsessionnelle, comme s'il y avait urgence dans la demeure, ce qui n'est pas vrai. Je rappelle que le trou de la sécurité sociale, ça faisait des années que la Sécu avait un trou. Ça ne l'a pas empêché de travailler. Parce que la Sécu bénéficiait effectivement des systèmes de comptabilité où on pouvait autoriser ce qu'on appelle donc les déficits programmés. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme serait passée si le gouvernement avait agi sur l'inflation.
Alors, il n'a pas écoutons Nabila Itakash. Et ensuite, je donne la parole à Mimsa, qui va nous rejoindre.
Vous avez raison. Il y a eu des déficits de la sécurité sociale pendant des années. Mais vous rigolez quand vous dites que ça ne nous a pas empêché d'avancer, ça nous a enlevé des marges de manœuvre. Tous les problèmes dans l'éducation, vous savez, les finances publiques, les politiques publiques, on les finance avec l'argent qu'on a ou avec de l'emprunt. Donc si vous avez des déficits, comme on a eu pendant très longtemps sur la sécurité sociale qui nous a empêché de mettre cet argent, au lieu de rembourser de la dette et de le mettre sur de l'hôpital, sur l'éducation, voilà. Donc si vous voulez qu'on soit dans
des
déficits éternellement, c'est pas notre choix. Nous, notre objectif, c'est que le système des retraites soit réformé pour garantir le niveau des pensions aux retraités. C'est notre objectif, tout simplement. Donc après, moi, je ne sais pas comment vous voulez faire autrement. Soit, encore une fois, vous augmentez les taxes, les cotisations, et alors là, vous tuez, ça va à l'encontre de ce que vous disiez. Oui, mais créer de l'emploi, vous le créez comment?
Simplement en dynamisant l'intérêt pour la France.
Notre objectif, c'est le plein emploi. Mais bien sûr, mais ça, ça se décrète pas comme ça. La France est la première, je l'ai déjà dit ici, la France est le premier pays européen à recevoir des investissements étrangers. Donc ne dites pas on a rétabli
la taxation des dividendes.
Attendez,
c'est pas des dividendes, c'est des investissements d'entreprise pour pouvoir créer des emplois.
Amine qui sort des bouchons. Bonsoir Amine ça.
Bonsoir à toutes et bonsoir à
tous. Vous en sortez bien, ça va?
Oui, ben ça roulait pas très bien aujourd'hui, c'était meilleur hier.
Bon.
On se demande pourquoi.
C'est pas gentil.
Non, comment vous réagissez à tout ça?
En réalité, moi, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de cette réforme parce que
pourtant,
ça prendrait énormément de temps. Il y a les pour, il y a les contre. Il y a surtout des contre, j'ai l'impression, parce qu'il y avait quand même plus de 2 millions de personnes dans la rue hier. Et donc, ça veut dire que quand les Français contestent, ils sont pas totalement idiots. Je vais reprendre à mon compte les propos de Jean-Luc Mélenchon. S'ils étaient complètement... s'ils sont pas totalement idiots, on aurait pu les convaincre. Donc, ça veut dire que cette réforme, même si j'entends qu'à terme, il y a peut-être des difficultés d'un point de vue de l'équilibre.
Mais il est là le problème, que vous sous-estimez ces difficultés.
Très rapidement, ensuite, je vous cède la parole. C'est que je trouve que, compte tenu de la période que nous vivons, compte tenu de la crise sociale profonde, compte tenu des nombreuses difficultés qui pèsent sur les Françaises et les Français, compte tenu de la souffrance qu'ils subissent avec cette sortie de la crise sanitaire, avec ce pouvoir d'achat qui est de plus en plus en baisse, je crois que c'était pas forcément le bon moment pour engager une réforme comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que dans la posture du président de la République, c'était un peu... finalement, j'ai envie de faire ma réforme des retraites là où tous les autres avant moi se sont plantés. Moi, je vais montrer que lors de mon mandat, j'ai porté cette réforme. Par ailleurs, un peu contradictoire entre ce qu'il annonçait pendant la campagne présidentielle et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de où est-ce qu'il manque un milliard, où est-ce qu'il manque deux milliards.
Si on veut trouver des milliards, c'est 150.
On peut en trouver de nombreux des milliards, notamment du côté des super profits. On va sûrement en
parler. Vous avez répondu, c'est 150 milliards.
C'est 150 milliards et c'est à la marge. Il faut arrêter. En fait, Monsieur Mélenchon, non, aucun des scénarios du corps aujourd'hui ne vous dit qu'il y aura un équilibre du financement des retraites. Donc non, c'est pas vrai. Donc pardon, et Mélenchon qui est intoxique, Mélenchon qui intoxique le débat en disant qu'il faut aller chercher dans les super profits, c'est pas assez. Et en fait, je vous dis déjà, on taxe beaucoup en France.
On revient dans une poignée de minutes. Je lance là, justement, attendez.
Ni l'égalité, ni l'inégalité dans la taxation, c'est pas la même chose.
L'inégalité dans la taxation, on en parle dans une poignée de minutes. Si, justement. Juste, là, je suis obligé de lancer la pub, mais ça dure quelques secondes et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, messieurs.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h55, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est le face-à-face et ça continue.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face qui est très animé. Je vous l'avais dit, la réforme des retraites, évidemment, elle cristallise tous les sujets. C'est aussi, comme l'a rappelé tout à l'heure Nicolas Vidal, c'est aussi cette manifestation de précarité, de désarroi, de colère. Enfin bref, tous les mots MAUX sont réunis. Jean-Pierre Colombiès, oui. Gamal Abina, Nabila Itakache et enfin Amine Saa. À qui je devais redonner la parole?
Très,
à vous,
très rapidement,
Jean-Pierre Colombiès.
Non, mais le propos était intéressant.
Et on continue d'avancer.
Je ne vais surtout pas m'inscrire.
Et Martinez, il disait qu'il faut taxer les super profits.
Dans la durée,
faut
parce que je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas faire le sage savant, je ne sais pas. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, par contre, c'est que même si on a toutes les justifications possibles et imaginables en termes de, par exemple, de refus de taxation des super profits ou de la réintroduction de l'ISF, le problème, c'est le ressenti aujourd'hui de l'opinion publique est telle. Il y a de telles difficultés, essence, électricité, guerre, ambiance globale, fracture de la société, effondrement de l'éducation nationale, effondrement du système de santé, effondrement du système de sécurité. Et ça, on pourra en parler longuement des problèmes sécuritaires et c'est certainement pas Darmanin qui les réglera. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un tel millefeuille de contrariété, d'obsession, nouvelles anxiogènes que cette réforme n'avait pas sa place aujourd'hui.
C'est ce que ressent l'ancien commandant de la police.
Je suis désolé de le dire. Je ne suis pas technicien économique, donc je ne vais pas rentrer dans la justification des échelles, d'un plan Excel des finances publiques. Ce n'est pas mon truc, je ne sais pas faire. Okay, mais ce que je peux dire, c'est que le ressenti national, il est catastrophique. Et que si on ne résout pas avant toute chose, je dirais, ce lien entre l'opinion publique et la représentation nationale, on va dans le
c'est
mur.
C'est ce que je disais tout à l'heure, Nicolas Vidal, notre invité. Nabil
Itakache. Je l'entends, mais ce que vous êtes en train de dire, en fait, il y a une liste de problèmes que vous venez d'évoquer et je partage votre constat, c'est très difficile et le gouvernement est à la tâche sur tous ces chantiers-là. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce chantier, justement, des retraites, vous voulez l'ajouter comme un problème supplémentaire dans 4 à 5 ans. Non, parce que qu'est-ce que vous dites aux gens quand vous avez un système de retraite qui ne garantit plus l'équilibre et dans 5 ans, vous leur dites quoi? C'est soit la baisse de leur retraite. Est-ce que vous êtes prêt à prendre vous augmentez les impôts et là vous cassez l'économie, vous cassez l'emploi et vous ajoutez dans 5-6 ans à toute la liste des problèmes que vous venez de donner le chômage et la baisse des retraites. Et c'est ce qui est à, et ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un scénario qui n'a jamais existé. Ça existait au Portugal, ça existait. Tout le monde a fait les réformes.
Et
tout le monde
a fait les réformes. Il ne vient pas à l'idée qu'il y a eu un déficit d'explication de pédagogie du gouvernement par rapport à ça.
Je dis simplement.
Mais je vous assure que c'est fait au quotidien. Sauf que c'est très difficile parce que ce que vous dites, non, c'est fait au quotidien. Mais je le sais, on fait des réunions publiques partout, on est sur les marchés, on explique aux gens. Mais ce que vous dites que sur l'opinion et le ressenti, c'est très difficile de le combattre. Donc, quand on fait de la pédagogie, on dit vous êtes en train d'infantiliser les gens.
Alors pourquoi faut la faire cette réforme coûte que coûte. Pourquoi
coûte que coûte parce qu'il y a une liste de problèmes qui vient d'être évoquée. Oui, et si on n'en veut pas encore un de plus dans 5 ans et se retrouver avec, on n'a pas les moyens de financer les retraites, donc il faut soit augmenter les impôts et donc dans ce cas-là, on fait augmenter le chômage.
Mais c'est pas tout à fait tout, ça.
Mais on si, mais vous savez très bien. Quand vous augmentez les impôts, c'est que vous augmentez.
Quand vous augmentez les impôts.
Quand vous augmentez les impôts.
Quand vous augmentez les impôts, qu'est-ce qui se passe?
Je le suis. Excusez-moi, moi je donne des faits.
Quand vous augmentez les impôts.
On n'a jamais financé.
Pas, s'il vous plaît. Quand vous augmentez les impôts.
Quand vous augmentez les impôts, c'est mécanique en fait. Les entreprises donc payent plus d'impôts, donc elles recrutent moins.
Exact.
Voilà. Je vais vous donner un exemple. 2022.
Alors vous allez nous dire pourquoi.
Aujourd'hui, en conseil.
Alors,
je voudrais juste dire, on a baissé les impôts sur l'impôt sur les sociétés en 2022. On l'a passé de 33 à 25. C'est l'année record de recettes fiscales sur l'impôt sur les sociétés. Tout simplement parce que on a baissé l'impôt, donc il y a recréation d'activité. Et voilà. Donc c'est ça que je suis en train de
dire. Gamalabina.
Augmenter les impôts. Bon, déjà,
et les 19 heures, si vous voulez nous retrouver.
Dans des termes techniques, mais on va être un peu sérieux pour le coup. Vous me dites.
On est sérieux depuis tout à l'heure?
Non, je suis sérieux sur ce qui vient d'être dit là. Surtout, Nabil, vous
êtes. On était sérieux jusqu'ici.
Vous n'êtes pas bête, donc le mélange des genres, j'ai pas aimé, donc je vais être honnête. C'est pas parce que.
J'attends de savoir quel est ce mélange des genres.
Parce que ce qui permet de financer les retraites, ce ne sont pas les impôts, ça c'est du baratin, ce sont les cotisations des travailleurs. C'est ce qu'on appelle le système de package de ce qu'on appelle les organismes paritaires. Donc déjà, rien à voir avec les impôts. C'est deux.
Là, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple.
Non,
c'est deux formes de contribution différentes.
L'État, il se fait par les organismes paritaires.
Oui, mais c'est un prélèvement obligatoire, les cotisations.
Oui, mais ce ne sont pas
donc,
des impôts.
C'est un prélèvement obligatoire.
Ce ne sont pas des impôts.
D'accord, mais vous jouez sur les mots, là.
Non,
vous jouez sur les mots.
L'imposition.
Non, c'est un prélèvement. Qu'est-ce que c'est qu'un prélèvement obligatoire? Les impôts et les cotisations.
Non, c'est faux. L'imposition est obligatoire pour tout le monde. Les cotisations ne sont obligatoires que pour les travailleurs. Déjà, ça fait une petite différence. Alors qu'on est tous imposables par la TVA, de fait. Ça, c'est une première chose. Les deux sources, faut pas tout mélanger en comptabilité, en grande comptabilité, la macroéconomie. Il y a le financement de l'État et le financement des organismes paritaires qui se chargent de tout ce qui est collecte, vieillesse, veuvage.
Oui, on parle de cotisations. Si vous voulez dire,
jusqu'ici, je vous suis, c'est vrai.
Les cotisations, donc, se font par, peuvent être cotisées, on l'a vu avec le trou de la Sécu, par des déficits. Je dis que l'État est chroniquement déficitaire, on le sait, on va pas se raconter l'histoire. Budget annuel de 300 milliards, ils sont obligés d'emprunter pour pouvoir financer quoi? Je vous le donne
400.
400 milliards maintenant, oui. Ils sont obligés d'emprunter quoi? Ils sont obligés d'emprunter sur le marché financier pour financer quoi? Vous allez rigoler. Pas l'armée, hein, pas l'école. Non, pas du tout.
Le service de la dette.
Ils financent quoi? Ils financent l'intérêt de la dette. Je vous explique. On me prête de l'argent. Je rembourse l'intérêt. Il faut que j'emprunte à Bernard. Voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la question de savoir si les déficits posent problème n'est pas bonne. C'est pas une bonne question. Je pense que cette réforme était nécessaire, mais elle pouvait être reconduite. Parce qu'il n'y avait pas urgence dans le domaine.
Est-ce que votre banque vous prête si vous êtes à découvert? La question, elle est là.
Non, dans les banques, on prête corrige. Ça règle la question. Il y a des gens qui sont à découvert à qui on prête Drahi. Voilà, il a découvert.
Mais la comparaison.
Oui, mais c'est quoi le taux d'intérêt? C'est quoi le taux d'intérêt? C'est quoi le taux d'intérêt auquel vous empruntez?
Les états sont notés par les agents de notation. On prête en fonction des notations. Déjà, ça n'a rien à voir.
Bien sûr. Mais vous savez, la dégradation. On n'est pas. La dégradation d'un. La dégradation.
Je finis mon propos.
Il y a Minsa qui réclame la parole aussi.
C'est vrai, il a été dégradé. L'État français a été dégradé. Et pour autant, il reçoit encore de l'argent avec un taux plus élevé. C'est tout ce qui fait comme différence.
Mais c'est grave, un taux plus élevé France, pour les finances publiques.
La France, si elle était un État, je l'avais dit une fois devant Ségolène Royal, si ça avait été une entreprise, la France, elle aurait été liquidée il y a 15 ans. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui a plus de 50% d'endettement doit être liquidée judiciairement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors je vais être méchant.
Je suis obligé
de balancer une cartouche, hein, pour le plaisir.
Je vais être méchant,
donc,
j'aime bien.
Alors, il y a 150 milliards de trous potentiels dans je ne sais combien d'années, potentiellement.
Sur les 10
prochaines années. Monsieur Macron, il y a encore deux semaines, nous a annoncé tout fièrement comme un coq. Oui, parce qu'ils sont un peu excités sur la guerre d'Ukraine actuellement, qu'il allait financer l'armée, alors que c'était le premier à avoir fait retirer, c'était très bien, baisser le financement de l'armée, 400 milliards de dollars en 3 ans. Où va-t-il chercher l'argent?
Ah ben, il n'a pas dit en 3 ans.
Pour l'armée, c'est en 2026. Où va-t-il, il faut regarder les textes, c'est intéressant. Où va-t-il chercher l'argent? On se demande chez les Français. Parce qu'il se trouve que l'État n'a jamais fait autant d'argent cette année que grâce à la spéculation sur les prix de la consommation. Et donc, mécaniquement, quand vous augmentez les prix, la TVA augmente mécaniquement.
Et oui.
Donc, ils engrangeront, c'est considérable, 50% du budget de l'État étant la TVA.
Amine ça.
Non, mais très brièvement, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là, parce que les auditeurs, ça ne les intéresse pas forcément.
Oui, si, ça les intéresse.
C'est très rébarbatif. Moi, ce que je veux dire, c'est que.
Au contraire.
D'abord, cette réforme, sa seule raison d'être, finalement, c'est de se mettre en adéquation avec les injonctions de Bruxelles. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Et la deuxième raison, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le président de la République, il a envie de sortir de ce mandat en disant bah, j'ai réussi au moins ça. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas de majorité. Je le regrette hein, qu'il n'ait pas de majorité, ça crée l'instabilité. La minorité relative, enfin, on l'appelle comme on veut.
Majorité.
Ce que je veux dire par là, c'est que au fond, il n'est pas aujourd'hui en capacité de gouverner, et pourtant, il met sur la table un des sujets les plus clivants, les plus difficiles, parce qu'il estime de toute manière qu'il va passer en force, tout simplement. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a quand même quelques difficultés et quelques obstacles à ce passage en force. Mais surtout, il a envie d'en finir avec ce fameux clivage gauche-droite, dans lequel il a quand même créé quelque part son espace politique, et il a besoin de préparer l'avenir. Et je crois qu'une dissolution à l'issue de toutes ces discussions-là, alors il y a à la fois le projet de loi immigration dont on va parler tout à l'heure, qui va aussi créer quelques difficultés au sein de l'Assemblée.
Brièvement, je voudrais qu'on avance, s'il vous plaît, messieurs.
Tout ça va créer les conditions.
Est-ce qu'il faut taxer les super profits finalement? Est-ce qu'il faut taxer les super profits finalement?
Bah bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Bah,
moi, je suis totalement pour.
Qu'est-ce que vous dites, Nabila Etakache?
Sur les super profits qu'on taxe déjà beaucoup en France. Je l'ai donné tout à l'heure cet exemple. C'est-à-dire que vous baissez les impôts et vous en récoltez plus. Il y a un moment, il faut arrêter de croire que parce que vous augmentez les impôts, vous faites augmenter les recettes. C'est pas vrai. Donc là, c'est raconter.
Est-ce qu'il faut taxer les super profits?
Écoutez, les super profits, je sais pas ce que vous voulez dire par super profit. Les entreprises, elles investissent, elles donnent, bien sûr, elles rendent une partie de cet argent aux actionnaires, aux gens qui ont pris un risque. Si vous voulez que demain, il n'y ait plus de personnes qui investissent dans l'économie française, oui, en effet, taxons les super-profits. Moi, ce n'est pas du tout ce que je souhaite.
Ce n'est pas les super-profits, c'est la question des mouvements financiers sur les marchés financiers qui sont faiblement taxés.
Ça avait été
proposé. Il y a eu des réformes.
Mais ça, vous savez que ça se fait qu'à un niveau européen ou international. Euronext,
attends, on va expliquer la finance rapidement. Euronext, donc c'est la bourse de Paris et de Berlin qui sont associés. Donc c'est une méga bourse comme ça qui compte quand même. Et il y a des mouvements financiers très importants qui sont très peu taxés.
Bien sûr qu'il y a des mouvements, mais si vous rajoutez des taxes, vous savez qu'il y a une concurrence entre les places financières. Vous savez qu'il y a une concurrence. Qu'est-ce qui s'est passé après le Brexit? Quand les Anglais sont sortis, il y a beaucoup d'entreprises qui vont ailleurs maintenant, vont à Amsterdam, qui vont à Paris.
Je suis étonné, Nabil, que vous me disiez ça. Brexit a eu un impact sur ce qu'on appelle l'économie réelle, productive.
Sur la City, il n'y a eu aucun
problème. La City se porte très bien parce qu'elle spécule et qu'elle fait que ça. C'est une place forte de financement de mouvements.
Non, vous avez des banques qui ont changé leur siège
de
ville.
Les banques, ce n'est pas la City, on parle marché
financier. C'est elle qui finance l'économie.
Non, les banques, c'est juste des comptoirs. Ce qui finance la City, ce sont les investisseurs, les grands investisseurs, fonds de pension et autres investisseurs privés, autres, je ne sais. Donc, il ne faut pas tout confondre. Mais ce qui se passe, c'est que la City n'a pas été impactée. Ce qui a tué, là, je vous rejoins totalement, l'Angleterre, c'est effectivement que le Brexit, c'est la fuite des entreprises, parce qu'évidemment, c'était déréglementé, c'est une catastrophe. L'Angleterre a fait une erreur monumentale. Moi, je suis plutôt pro-européen pour ça. Maintenant, je vous rejoins sur un point. C'est vrai que d'augmenter les impôts, c'est débile et ça ne veut rien dire.
Messieurs,
c'est faire mieux d'impôts, c'est ce qui vient d'être dit par notre ami. Et effectivement,
19h05. L'impôt. 19h06, on doit avancer. On va parler aussi, notamment, vous savez quoi, de Darmanin, avec cette confidence, attention, qui a provoqué notamment un vif débat, voilà. Évidemment, est-ce qu'il n'a pas tendu la perche pour se faire un peu taper? Cette confidence sur sa mère, qui est femme de ménage, qui ne passe pas du tout. Qui ne passe pas du tout. Alors, il s'est un peu confessé, il a dit, voilà, ma mère, femme de ménage, qui s'appelle Annie, qui partira bientôt à la retraite à 67 ans. Bah, figurez-vous que ça a déclenché la colère de beaucoup de gens. Jean-Pierre Colombès.
À moi encore, non.
Ah, on les a tous entendus, ça fait un moment.
Non, mais j'ai rien fait, moi.
Bah alors, Amine, ça.
Non, mais moi, je peux en parler. Moi, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable.
C'est insupportable.
Darmanin, depuis presque depuis toujours dans sa carrière politique, il ne cesse de nous rappeler qu'il est fils d'eux, que sa mère est ceci, que son père est musulman, que sa tante est ceci. Enfin, on a eu droit à toute la famille. Et ça devient insupportable dans le débat politique parce que finalement, qu'est-ce qu'il essaye de faire avec ça?
Ce qu'il essaye de faire, c'est
attirer quelque part la sympathie du public, de l'opinion.
Et notre réalisateur a disparu.
J'ai envie de lui dire, s'il nous écoute, on n'en a rien à faire de sa mère. Vraiment. Comme on n'en a rien à faire de la mienne. Chacun
Clochette, il est où notre réalisateur là? Il a disparu.
Là on frôle l'irrespect.
Le débat politique.
Ben, je pense.
Ouais. On frôle l'irrespect. Il y a beaucoup d'irrespect. On dit pas, de la mère de quelqu'un ou d'un ministre ou de n'importe qui. On s'en fout de sa mère. C'est grave ce que vous faites.
Alors il faut écouter. Il faut écouter. Mais non, c'est insupportable. On peut pas en placer une.
Allez-y,
mais vos propos.
Allez-y, amis.
Mais je les assume. Je les assume d'autant plus que je vais les répéter. J'ai dit et je répète et je persiste. On n'en a rien à faire de sa mère, comme on n'en a rien à faire de la mienne. Voilà ce que j'ai dit.
C'est ce qu'il a
dit. Si vous n'entendez pas jusqu'au bout, c'est votre problème. Moi, je dis ça. Donc, entendez bien la prochaine fois.
Alors, Nabil, allez, Takash.
Je sais pas ce que je peux dire. En tout cas, enfin, moi, ça m'intéresse pas de rentrer dans ce genre de débat. Si le ministre de l'Intérieur, si Mélenchon fait la même chose, je suis né au Maroc, blablabla, etc. Donc, arrêtez. Donc, Mélenchon fait la même chose. Et vous avez fait la même chose en Seine-Saint-Denis. Vous avez intoxiqué les gens en leur faisant croire.
Mais il est élu à la Courneuve, donc ça tombe bien.
Je sais, on voit l'état de la
Seine-Saint-Denis. Clochette, oh là là! Non. Oh là là, ils sortent les cartouches là.
J'ai pas de problème à ce qu'on parle. Il a le droit de parler de sa vie, vous savez, pareil. Moi, ça m'arrive de parler de ma mère. Ça m'arrive de parler de mon père aussi.
On a le droit de parler de nos mères. Pourquoi?
Ils ont travaillé tout. Non, il le fait pas tous les jours.
Mais si, il a parlé de sa mère, de son père. Il nous a dit qu'il était musulman. Il nous a dit aussi
son grand-père.
Parfois, il faut illustrer. Non, non, mais c'est parce qu'on dit que les gens sont déconnectés. Bah non, on n'est pas déconnecté, si vous voulez. Il a aussi une vie familiale qu'il peut mettre sur la table s'il a envie de la mettre sur la table.
Bah, il voulait parler de sa femme, de sa mère.
Il a une vie festive aussi.
Bon, alors, Gamal Abilay et ensuite Jean-Pierre Colombès. Ouais. Bon, alors, là, je savais que ce sujet allait provoquer.
Dans le gouvernement de M. Macron, il y a des gens de qualité, indiscutablement, et puis il y a les nazes.
Bien sûr.
M. Darmanin, pour moi, est un naze.
Clochette aussi pour lui.
Là, c'est pas méchant.
Elle est faible, la clochette, aujourd'hui. Elle est faible. Le niveau de la clochette est très faible aujourd'hui.
Je le trouvais.
Ah, voilà. C'est juste, on touche pas au maire, c'est tout. Non, la vôtre ou celle de monsieur Darmanin.
On a le droit, il a parlé de sa mère en même temps.
Oui, mais c'était
tout le monde. Alors allez-y.
Ce qui est là, c'est qu'il joue. Alors malheureusement, c'est dans l'air du temps. On voit bien, tout le monde va chez Hanouna, par exemple, ça donne une petite idée. C'est le côté un peu populiste. Je suis près de vous, vous vous rendez compte, j'ai vécu la même chose.
C'est mal fait,
vous.
En plus.
Alors c'est mal fait, mais le problème, c'est que malheureusement, maintenant, on revient sur les grandes figures de la France. Chirac ne parlait jamais de sa famille, de Gaulle non plus. Ça, c'est une façon de dire, écoutez, je suis
des grands hommes d'État.
Voilà, je suis un peu comme vous, je suis un misérable. Je vous comprends. Et ça, c'est un peu maladroit. Malheureusement, c'est l'époque qui veut ça. On joue la carte de la popularisation, de l'image sympatoche, de je suis sur VSD ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas très sympa. Et je trouve pas ça intelligent parce qu'en plus, il passe pour un imbécile, in fine. Donc, il aurait mieux fait d'éviter ce genre de tort-ci parce qu'elle ne touche personne. En
fait. Jean-Pierre
Colombiès.
C'est
l'homme sage de ce
exactement,
plateau.
Exactement, oui. Lui, autre,
en tout cas, il s'est attiré toutes les foudres. Hein.
Oui, mais bon, moi, j'en veux pas plus que ça. J'en veux beaucoup plus.
Il s'est attiré toutes les foudres.
Je lui en veux beaucoup plus. Pour ses mensonges devant la représentation nationale à l'issue du match, par exemple, de la coupe de la finale de la Coupe d'Europe. C'est un monsieur qui n'aurait jamais dû être.
Je peux me permettre de vous interrompre deux secondes.
Allez-y.
Non, mais je lis juste une petite réflexion. Suffisant pour s'attirer les foudres, vous savez quoi, des opposants. Alors, il y en a qui dit, on le paye 10 000 euros par mois, logé blanchi, donc nourri, dans le satin de la République, depuis 10 ans, et monsieur Darmanin laisse toujours sa mère de 67 ans faire des ménages.
Ça, j'y crois moyen, ça.
Grand point d'interrogation. Ah non, c'est du sérieux, là.
Oui, non, mais bon.
Si
je peux me permettre, j'aimerais juste finir parce que le cas Darmanin est grave. Le cas Darmanin est grave. Je suis désolé, il est grave parce que c'est un monsieur qui n'aurait jamais dû être ministre de l'Intérieur pour plein de raisons. Je pense à l'histoire, d'ailleurs, qu'on a faussement qualifié de viol, parce que ça n'en est pas un, mais qui déjà était posé problème en termes de moralité puisque ce monsieur n'hésitait pas à négocier un rapport sexuel contre un service rendu. Qui d'ailleurs ne pouvait pas.
Promotion canapé.
Ça vous disqualifie. Pour être ministre de l'Intérieur et des cultes.
Faites gaffe, c'est limite de la diffamation là.
Ah
bon, bah oui, mais bon, enfin, il faut.
Il est policier, donc il sait ce que c'est.
Non, mais attendez,
en quoi
c'est une diffamation?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une décision qui a.
Il connaît son métier.
Non, mais en quoi c'est une diffamation? Non, mais je crois que vous n'avez pas bien suivi le dossier parce que ce que je vous raconte là, ce que je déclare là, c'est lui qui l'a raconté, c'est pas moi. Donc je suis désolé, c'est de l'autoflagellation.
Non, je pense pas qu'il ait déclaré exactement ce que vous venez de dire.
Consenti.
Exactement. Oui, mais. Pour un service.
Oui, ça c'est mis tout.
Bon, allez, on va pas s'éterniser là-dessus, ça n'en vaut pas la peine. Je crois que le fait d'avoir menti plusieurs fois devant la représentation nationale.
Enfin, là, c'est ses fonctions de ministre, il a pas été bon, c'est sur l'affaire du match.
Et puis le fait de mentir.
Non, mais c'est pour ça, j'en parle pas.
Non, mais oui, mais parce que le sujet, pardon, si on revient au sujet qui avait été posé par Adil, c'est est-ce que c'est. Enfin, le fait d'utiliser sa vie familiale, l'exemple de sa mère, sur le sujet des retraites.
Pour illustrer les retraites.
On revient à des sujets qui ont été tranchés depuis très longtemps.
Je continue.
je termine. C'est parce que ça a l'air de vous gêner, je termine.
Non, ça me gêne absolument pas. C'est pas moi que vous mettez en cause. J'ai rien à répondre à ça.
C'est pas grave, moi non plus. Parce qu'il y a des choses très graves qui se passent dans ce gouvernement et on n'en parle pas suffisamment de mon point de vue. Voilà, il aurait jamais dû être ministre de l'Intérieur. Il passe son temps à mentir, à annoncer des contre-vérités. Je pense notamment en termes de sécurité sur le fait qu'il maîtrise parfaitement la rue et les bandes et les gangs. Maîtrise rien du tout. La rue à Marseille est catastrophique. Il y a un règlement de compte tous les deux jours. Donc rien que pour ça, vous voyez, déjà en cela, il devrait rendre son tablier.
Il faut reconnaître que ça fait 50 ans.
Mais peu importe. Lui annonce qu'il a réglé tous les problèmes. C'est pas le cas. Maintenant, utiliser sa maman en la citant en exemple, parce que les femmes de ménage, bon ben, c'est son problème à lui. Et s'il se regarde dans la glace et qu'il assume, ben, tant pis pour lui, quoi.
Bon. C'est pas très malin parce que la maman d'un côté.
Pardon. Juste un mot, bien sûr. Alors Amine Jarry, ensuite Gamal Abina.
La maman d'un côté, il la cite effectivement pour des raisons personnelles.
Que de cartouches ce soir.
Il aurait dû mettre de côté. Et l'autre côté, sur les affaires de mœurs, ben, ça le pique aussi. Il devrait éviter ça. Moi, je pense qu'en politique, on peut parler qu'en tant qu'homme politique.
Exactement.
Amine, je pense que la polémique, en fait, elle a pas été suscitée par cette déclaration qu'il a faite. C'est juste mis bout à bout toutes les déclarations lié à sa famille, c'est-à-dire quand il nous l'a fait à l'Assemblée nationale, quand il a fait cette grande oratoire ou quand il expliquait qu'il était fils de machin, etc., ça a été très bien accueilli. Et moi, les politiques qui se livrent,
Dupond-Moretti a fait exactement
voilà,
la même chose.
Moi, ça ne me dérange pas. Que, voilà, et on a aussi besoin d'avoir des hommes vrais, des femmes politiques vraies qui apparaissent dans leur vérité. Mais quand c'est tous les ans, tout le temps, en permanence, je pense qu'il y a un agacement dans l'opinion publique, mais vraiment ça a été depuis qu'il est très médiatisé, on va dire depuis une dizaine d'années, on a chaque année une sortie de monsieur Darmanin pour nous expliquer son frère, sa tante, son cousin, son beau-frère, etc.
C'est dommage
parce que ça, en fait, il a usé ça. Ça donne un peu l'image de je sais pas si vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde, quand le président de la République était tenté de cajoler Kylian Mbappé. Quand c'est fait une fois, ça va, mais quand c'est pendant 3 heures à le suivre sur le terrain et tout ça, ça décrédibilise l'image.
Je trouve que c'est trop d'énergie pour un sujet qui en vaut pas la peine. Enfin,
vous êtes marrant ce soir.
Vous mettez beaucoup d'énergie pour un sujet. Je lance la pub.
Et on se retrouve justement. On va parler. Non, mais attendez. On va parler des sujets qui nous attendent encore. À tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, il est 19h20, c'est également avec Jean-Pierre Colombiès, mais aussi Kamal Abina, Nabilé Takache et enfin Amine Sah. Messieurs, nous allons parler...
Les Informés, le face-à-face.
Nous allons parler, vous savez quoi, après les retraites, eh bien, justement, on a beaucoup de questions qui sont en train de se poser. La division... qui s'inscrit dans les esprits, y compris dans le camp Macron, qui risque de faire une division, vous savez quoi, je fais référence sur le sujet de l'immigration, qui risque justement, pour le coup, lui, de diviser. Alors, pour quelle raison ça risque de diviser, Amine Sah? Sujet extrêmement explosif.
C'est un sujet très explosif et c'est quand même assez étrange qu'il soit présenté. Alors je crois que c'était prévu déjà depuis un bon bout de temps, la date du 1er février de la présentation du texte en Conseil des ministres. Mais ce que je trouve quand même assez étrange dans ce texte, c'est qu'il n'est pas en total accord avec ce qui était annoncé, notamment pendant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que dans la bouche du président de la République, on avait plutôt un texte qui serait beaucoup plus ferme. C'est-à-dire qu'on sera ferme avec les méchants et pas forcément gentil avec les gentils. C'était plutôt ça. Aujourd'hui, ça a un peu changé. On est plutôt sur un texte, on va dire, plus équilibré, qu'on a intitulé par ailleurs Darmanin Méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, ou un truc comme ça. Mais clairement, il y a dans ce texte, moi, des choses qui me vont très bien. Le fait de régulariser des gens qui sont déjà au travail et on est dans une hypocrisie absolument incroyable. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller vers cette. Mais en même temps, il n'y a rien dans les chiffres. C'est-à-dire que quand on demande à Gérald Darmanin.
Alors pourquoi ça divise alors?
Combien pourquoi on estime de régularisation, etc.
Mais la question, une fois qu'on a dit ça, pourquoi ça divise?
Il est incapable de.
Pourquoi ça divise?
Ça divise tout simplement parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de majorité, puisque le texte est très équilibré. Il n'y a pas de majorité pour voter le texte. Il y a une division à l'intérieur même de la
majorité.
Voilà. D'un côté, la gauche qui trouve que ça ne va pas assez loin dans la régularisation, etc., parce qu'ils veulent aussi le regroupement derrière familial. De l'autre côté, à droite, on appelle ça la régularisation massive. Enfin, c'est le grand remplacement.
C'est toujours le même débat.
Donc, on est dans un texte qui est tellement équilibré
qu'il ne trouve pas de majorité, en fait, ni d'un côté ni de l'autre.
Nabil Aitakash, pourquoi ça divise? C'est parce que, bon, certains auraient souhaité que, justement, ce sujet sur le... Sur l'immigration,
on est d'accord avec mon voisin de la LFI.
Non. Pas la LFI.
Ah, pardon, je pensais que vous étiez de la LFI. Non, je pensais que vous étiez de la France Insoumise, pardon.
Gaucho.
Comme quoi?
Il est de gauche.
Non, ce texte est quand même très, très bien.
Pragmatique, surtout.
Oui. Non, le texte est parfaitement équilibré et je pense bien évidemment que des deux côtés, comme vous venez de dire, on veut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce texte? La situation migratoire, elle est préoccupante en Europe, en France. La France est de moins en moins, elle attire de moins en moins, hein, mais il y aura toujours des demandes d'asile. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas question, est-ce qu'on est pour, on est contre l'immigration? On veut trois choses, on veut simplifier, donc on simplifie les procédures. On veut créer de l'intégration aussi par la langue, par le travail, avec un permis, un titre de séjour pour les personnes qui sont en situation irrégulière, mais qui travaillent depuis au moins 8 mois. Donc tout ça, c'est dans les métiers en tension. Donc tout ça, c'est bien, ça va dans le bon sens. Et donc, la droite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est forcément contre ce genre de proposition. Et la gauche. Et la gauche, je pense qu'elle est, elle n'est pas très réaliste sur, on ne peut pas accueillir malheureusement tout le monde, c'est pas possible. On le voit, on a déjà du mal, on a déjà des défis immenses et considérables. Si en plus il faut mettre le regroupement familial aujourd'hui, ce qui était totalement possible dans les années 70.
La droite en 70.
Voilà, ce qui était possible dans les années 70-80, on a changé de situation, on a changé d'époque. On fait ce qu'on peut.
Jean-Pierre Colombès.
Oui, le problème dans ce genre de débat, c'est qu'on est toujours confronté à la fois au dogmatisme de gauche, presque parfois un peu naïf, et à la radicalité d'une forme de droite qui voit ce genre de régularisation comme un acte de défaite, en fait, d'une immigration qu'on contrôle pas du tout. Parce que là, il faut être clair aussi, hein, l'immigration clandestine, on la maîtrise absolument pas. Nos frontières sont des vrais passoires. J'ai encore reçu des photos pas plus tard qu'hier de contrôle dans le sud-est où ça rentre un petit peu comme on veut, mais c'est logique, hein. L'Europe n'a pas de frontières, voilà. Donc c'est dès lors que vous rentrez dans un des pays de frontaliers méditerranéens, c'est gagné. Donc il y a une attractivité naturelle et effectivement il y a un déficit de défense de l'Europe par rapport à ça, parce que autant je suis d'accord qu'il y a une intégration nécessaire à faire de populations qui sont là, qui travaillent, qui ont une famille, qui ne cherchent vraiment qu'à s'intégrer, autant
dans les métiers en tension.
Autant, mais au-delà de ça, autant, il n'y a pas que les métiers en tension, tout simplement, le fait que quand vous êtes là, il faut s'intégrer au pays, il faut avoir envie de faire partie de ce pays. Mais autant aussi, vous avez une immigration totalement parasitaire, qu'on ne dénonce pas assez, je suis désolé, parce que cette immigration parasitaire, haineuse et agressive et délinquantielle, pose problème à l'immigration qui, elle, ne demande qu'à s'intégrer.
Alors, le projet de loi immigration prévoit justement de pouvoir renvoyer plus facilement les étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits sur notre territoire.
Vous savez que c'est quasiment
impossible
aujourd'hui.
Il y a aussi des sanctions. Enfin, oui, mais il faut y travailler. C'est parce que, oui, vous dites qu'en fait, ce que vous dites, c'est impossible parce que les pays d'accueil ne veulent pas les reprendre. Il va falloir, il y a de la diplomatie encore à mener. Et aussi, pour en revenir aussi sur les passeurs et les marchands de sommeil, des sanctions seront aussi durcies. Donc voilà, on essaie de s'attaquer aussi aux racines du problème. C'est pas un sujet évident. Il y a beaucoup d'humains, hein, quand même. On parle d'humains, donc il faut être faut faire très attention.
On n'a pas entendu Gamal Abidine.
Ça va arriver. La question de base, à savoir pourquoi est-ce que ce sujet pose problème. Simplement parce qu'il y a des marottes comme ça. Dans les années 70, par exemple, la droite n'avait aucun problème à accueillir l'immigration. Un tel enseigne qui a fait une loi pour le mouvement familial. Déjà, ça posait pas problème.
Il fallait amener des ouvriers pour les grands centres de production. Voilà, à ce moment-là.
C'était intéressant. Et puis, on était en pleine croissance. Il y avait une petite crise qui démarrait, mais on ne s'attendait pas à une telle crise. Ensuite, dans les années 80, on a eu à nouveau cette marotte, Mitterrand, qui régularise massivement 200 000 immigrés. Okay. Ensuite, dans les années 90, avec Chirac, plus de tension, bizarrement. Il n'y a plus de problème avec l'immigration, on n'en parle pas. Et on revient après avec Sarkozy et toutes ces lois ignobles, l'histoire de l'identité nationale. Donc il a utilisé vieux termes qu'on
utilise. Là, il va à la pêche aux voix du Front National.
Mais il parle d'immigration. Donc ça, c'est vraiment le discours des années 40 qui est sale. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait d'ailleurs. Quand on parle d'identité nationale, ça renvoie au nazisme. Et c'est clairement le nazisme, c'est eux qui ont défini ce terme-là. Ensuite, on a eu la lubie de M. Hollande. Déchéance de nationalité. On attaque encore l'immigration. Et puis maintenant, à nouveau, cette marotte qui revient, malheureusement, l'immigration. Alors moi, je pense qu'effectivement, la question de l'immigration, elle se pose dans des termes qui sont liés à l'économie.
Au passage, les lois séparatistes.
Tout à fait. Oui. On ne parle même pas de ça. Oui. Ça, on va même pas en parler, mais ça, c'est encore à l'intérieur. C'est pas tellement l'immigration, ça cible l'intérieur. Mais tout ce qui est lié à l'immigration, c'est toujours touchy parce qu'effectivement, il y a un pays qui est en crise depuis 40 ans et que quand Rocard dit on peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est une façon de dire on est incapable même de régler le problème intérieur. Donc moi, je pense que l'Allemagne, elle a régularisé un million d'immigrés parce qu'il y a déjà anticipé le mouvement des retraités. Tout le monde parle de retraite. Il n'y a pas assez de bras, pas assez de mains.
Taux de fécondité très faible.
Voilà, seulement avec une baisse de fécondité. La France, ce problème ne se pose pas en les mêmes termes. D'abord, ce n'est pas un pays industriel ou moins industriel que l'Allemagne, bien sûr, qui est déficitaire chroniquement, que ce soit les comptes de l'État ou l'exportation, et qui malheureusement est de moins en moins, et c'est bien de l'avoir rappelé, Nabil, attractif. C'est-à-dire que les gens qui viennent en France, ils passent en France comme une plateforme pour aller en Angleterre, par exemple, on le voit bien avec ce qui se passe à Calais, ils vont en Allemagne, ils vont n'importe où, mais ils ne restent pas ici, parce que le message était reçu en Afrique. La France n'accueille plus les immigrés ou les accueille mal. Donc, ils pensent que c'est dangereux, et cette loi qui arrive là est une loi qui peut être équilibrée, effectivement, et en même temps, qui va encore cristalliser les tensions, parce que finalement, autour de cette table, 80% de fils immigrés. C'est ça la réalité de la France aujourd'hui. C'est quoi l'immigration? Je le définis très rapidement. Polonais, espagnol, italien, que des réfugiés d'ailleurs.
Espagnol, italien.
Espagnol, italien. Ensuite, il y a eu les boat people en 70, les Algériens évidemment avant, les Marocains dans les années 70, les Tunisiens, les Africains en dernier recours, et maintenant il y a les Roms et tout ce qui peut arriver des pays en guerre comme Afghanistan et autres. Donc ces vagues d'immigration qui arrivent là, elles arrivent toujours pour les raisons économiques et politiques, à savoir les guerres. Donc c'est vrai que si ces questions-là ne sont pas réglées en amont, ça continuera à devenir un pôle d'attraction dangereux pour ceux qui viennent et qui s'y perdent, et ça va alimenter une délinquance qui devient chronique malheureusement.
Eh bien, Gouyamine, ça.
Oui, juste rapidement, je vais ajouter un petit point. C'est que ce qui est dommage dans ce débat-là, c'est que l'immigration, c'est un sujet sérieux, mais on s'engage jamais dedans de manière apaisée avec des éléments concrets. C'est-à-dire que tout le monde y va de son chiffre, tout le monde y va de ses. On est toujours complètement noyé là-dedans. Et tout à l'heure, tu disais, Gamal, qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde. Enfin, tu reprenais les mots de Rocard qui disaient qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et bien, ça tombe bien, ce n'est pas le cas du tout. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est plus le cas en France. On est moins attractif, ça a été dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres pays européens qui accueillent davantage que nous. Les Allemands accueillent plus, ça a été dit. Les pays scandinaves accueillent davantage et surtout dans de meilleures conditions. C'est-à-dire que non seulement on accueille moins, mais en plus, les quelques-uns qu'on accueille, on les accueille très très mal. C'est-à-dire qu'on a un problème pour intégrer.
Ah, ça, c'est un mythe, hein, sur les Scandinaves qui accueillent mieux, etc. Là, avant, c'était le cas dans les années 90-2000. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Vous parlez aux Suédois. Il y a maintenant l'extrême droite en Suède, donc il faut, voilà,
merci messieurs, merci Annabelle Etakash. Vous savez quoi, il est élu, il est le représentant, pardon, le responsable de Renaissance sur le département du 93. À très bientôt, Annabelle Etakash.
Merci, et
c'est
bonsoir.
Moi qui vous remercie.
Je voudrais juste passer un petit message à Maya et Lila. Maya qui m'envoyait trop d'impôts, tu l'impôts.
Maya et Lila, on vous embrasse. Aminsa, l'élu de la Courneuve, à très bientôt. Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police. Mais attention, il est porte-parole de la police indépendante. Hein.
Et oui.
Ça va ?
Et beaucoup de choses à dire sur ce
plaisir.
Sujet-là. Je pense qu'on malheureusement, on ne l'aborde pas suffisamment.
On viendra en parler. On fera une émission spéciale.
Okay.
Peut-être semaine prochaine. Si. Gamal Abina, le porte-parole des mouvements sans voix.
Non,
le droit civique. Le droit
civique. Mais je vais finir par faire mon nom avec vous. Les mouvements sans voix, il m'a fait. Ouais. C'est vrai que j'ai pas la voix.
C'est juste énorme. Alors, c'est juste énorme. Désolé, mon cher Gamal Abina. À la réalisation, c'était, tout simplement, comment ?
Jean-Paul.
Jean-Paul. Il confond tout le monde, donc je m'appelle Jean-Paul, voilà.
Anthony.
Je vais poser la gourde.
Voilà, c'est ça. Bilal Lendman, vous le retrouvez à 20h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.